Brice Teinturier, qui est directeur général délégué d'Ipsos, il a notamment publié « Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie » chez Robert Laffont. Dans la suite de cet ouvrage et dans la suite également de ce que vient de dire Frédéric Saïs, on a l'impression qu'on est dans un climat de défiance que je qualifierais d'absolu par rapport en tout cas à ce qui précède vis-à-vis des politiques. Est-ce votre sentiment, Brice Teinturier ?
Oui, bien sûr, c'est paroxystique, ça ne date pas d'aujourd'hui. La seule différence, c'est que ceux que j'avais qualifiés de praf, de plus rien à faire, plus rien à foutre, là sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Donc ce n'est pas simplement du désengagement, c'est une forme particulièrement aiguë de rejet qui se cristallise, tout particulièrement à l'encontre d'Emmanuel Macron, mais ça dépasse très largement Emmanuel Macron. C'est un rejet effectivement très puissant des formes traditionnelles de la démocratie et aussi de leurs représentants.
Mais alors ceux qui n'en avaient plus rien à faire, je reprends le titre de votre livre, Brice Teinturier, étaient-ils dans la colère, dans la défiance, parce qu'il y a aussi une possibilité d'être tout simplement désintéressé par rapport à la politique, de ne plus rien en attendre?
Ils étaient dans le dégoût. Ceux que j'avais analysés et qualifiés de prafistes étaient ceux qui étaient dans une forme de rupture. On se détourne de ce qui vous dégoûte. Donc ils n'étaient pas dans le désintérêt à l'égard de la politique. Simplement, ils avaient accumulé un tel ressentiment que ils rompaient avec le système. Ils se repliaient sur d'autres formes de politique, soit au plan local, soit en tous les cas dans l'abstention et dans la protestation. Là, l'élément nouveau, c'est qu'ils sont revenus. Et qu'ils sont revenus dans une action collective et dans une action de mobilisation pour exprimer non seulement toujours leur dégoût, mais des revendications de plus en plus précises.
Est-ce que vous pouvez les décrire, ces gens-là? Donc, les gilets jaunes, qui ne sont pas la totalité, j'imagine, de ce que vous avez appelé les prafistes, ceux qui n'en avaient plus rien à faire, mais peut-être sont-ils tous, ces gilets jaunes, des gens qui étaient justement dans cette réaction de rejet du politique?
Mais il y a effectivement une caractéristique commune. Moi, j'avais été frappé, quand j'ai écrit ce livre il y a 2 ans maintenant, de voir que ce groupe de praf ou de prafistes n'était sociologiquement pas si distinct de ça, de l'ensemble de la population. Il était un peu plus populaire, un peu moins diplômé, un peu plus jeune, mais pas tant que cela. Et c'est un peu ce que l'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes, qui certes a quand même une des dominantes sociologiques. On voit bien que c'est plutôt des représentants de la classe moyenne inférieure, des gens que Patrick Artus qualifierait de appartenant à la bipolarisation du marché du travail, ceux qui ont de plus en plus de mal à avoir des CDI et des perspectives d'avenir. Donc il y a bien cette sociologie qui malgré tout apparaît. Mais on mesure également que c'est un mouvement relativement large, qu'on peine à distinguer ou à enfermer dans des catégories sociales et même politiques. Là aussi, il y a des dominantes, mais qui seraient très exclusives, très distinctes du reste de la France. Ça embrasse large, tout simplement.
Cette défiance, elle est particulièrement accusée vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Comment l'expliquez-vous ? Était-ce finalement une popularité relative, une situation politique particulière qui lui a permis d'être élu ? Ou bien est-ce un véritable désamour de l'opinion ou de ses gilets jaunes d'ailleurs, Brice Teinturier ?
Alors les deux mouvements, je crois, se rejoignent. La sociologie des électeurs d'Emmanuel Macron est très typée et elle est à l'encontre du mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des catégories aisées, à l'aise dans la mondialisation, pro-business, plutôt habitants des grandes métropoles. Et ça, ce n'est absolument pas les Gilets jaunes. Mais il s'y ajoutait quand même une composante nouvelle. Depuis l'été, on a bien vu que la relation d'Emmanuel Macron aux Français en général s'était fortement dégradée. À la fois pour des raisons de fond, ce sont des mesures prises qui ont donné le sentiment particulièrement aigu chez les Gilets jaunes d'une injustice dans la demande des efforts aux Français. Donc là, c'est la question fiscale qui est extrêmement importante et à laquelle d'ailleurs Emmanuel Macron ne répond pas directement dans son intervention. Il met beaucoup d'argent sur la table, il donne satisfaction à un certain nombre de revendications, mais le cœur de la mobilisation, le sentiment d'une injustice, et notamment sur le plan fiscal, n'est pas véritablement traité. Donc il y a ça qui a aiguisé le rejet d'Emmanuel Macron, et puis il y a également des phrases, une posture, une façon de se présenter, une façon de s'adresser aux Français, qui a accentué l'idée d'un président qui n'était pas en compréhension de la véritable vie d'une partie de la population, et qui aussi, par moments, leur donnait le sentiment de leur faire la leçon.
Mais alors pourquoi Emmanuel Macron et pas, par exemple, Nicolas Sarkozy? Jadis, il y avait eu le bouclier fiscal. Ce bouclier fiscal, il avait coûté 800 millions d'euros. Alors certes, c'était moins que la transformation de l'ISF en IFI, mais quand même, c'était une somme. Et il y avait aussi des petites phrases. pourquoi la personnalité d'Emmanuel Macron semble focaliser, concentrer toute une série de mécontentements, de colère.
D'abord, Nicolas Sarkozy a subi exactement le même mécanisme de désignation d'un président dit des riches. Et justement, immédiatement après la mise en place du bouclier fiscal, tout comme Emmanuel Macron a été qualifié dans sa politique d'un président qui demandait beaucoup plus d'efforts à l'ensemble des Français aux catégories populaires qu'aux catégories élevées. Donc là, il y a un point commun. Ensuite, dans la personnalité d'Emmanuel Macron, je crois qu'il y a une dimension qui, là, pour le coup, n'existait pas avec Nicolas Sarkozy, ou pas comme cela, c'est ce sentiment de quelqu'un qui a une intelligence de la situation très intellectualisé, qui a un rapport au monde, un rapport au quotidien des Français.
Ça veut dire que les Français n'aiment pas les intellectuels?
Ça veut dire que les Français ont le sentiment que les intellectuels sont parfois totalement déconnectés et que quand vous vivez au quotidien avec un certain nombre de conditions, et là, par exemple, je pense aux 80 km/h, c'est typiquement la mesure qui donne le sentiment que ceux d'en haut, ceux qui sont à Paris, ont une approche peut-être très rationnelle des éléments. Oui, peut-être que rationnellement, cela permet de faire baisser le nombre de morts, mais c'est quelque chose qui traduit une façon d'appréhender le réel qui n'est pas celle des Français. Et on peut avoir un bon raisonnement sans pour autant avoir raison. Eh bien, c'est ce qui se passe, je crois, aux yeux de très nombreux Français à propos d'Emmanuel Macron. Je ne suis même pas sûr qu'il suppose qu'il a un bon raisonnement, mais en tous les cas, ils se disent il a tort, il ne nous comprend pas sur un certain nombre de mesures. Et ça, avec Nicolas Sarkozy, c'était différent. On n'avait pas ce même rapport, mais ne refaisons pas l'histoire. Nicolas Sarkozy a été rejeté aussi avec une intensité exceptionnelle.
Emmanuel Macron est un président jugé par certains méprisant, arrogant, mais ça n'est pas le premier président méprisant ou arrogant. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, certes, vous êtes de Clermont-Ferrand, vous aussi, Brice Taturier, mais enfin, néanmoins, Valéry Giscard d'Estaing a pu parfois donner l'impression d'être un intellectuel, quelqu'un qui était avant tout sensible aux chiffres. Pourquoi lui, par exemple, échappait à ce jugement ?
Et il n'a pas totalement échappé à ce jugement, parce que souvenez-vous aussi de l'intensité et surtout de la forme du rejet à l'égard de Valéry Giscard d'Estaing. Ce qu'on lui reprochait, c'était une forme de morgue qualifiée justement d'aristocratique ou de monarchique. Donc on retrouvait bien cet élément. Simplement, avec Emmanuel Macron, je crois qu'il y a eu une conjonction des deux phénomènes. À la fois pour une partie de la population, le sentiment que justement dans l'exercice de la fonction et même dans ses propos à propos d'une supposée frustration des Français à l'égard de la figure monarchique, et bien qu'il y avait à nouveau cette figure, et je crois que c'est un contresens, que les Français ne veulent absolument pas d'un monarque, fût-il républicain.
Donc Emmanuel Macron s'est trompé.
Ah, sur ce point-là, je pense qu'il s'est trompé. Les deux corps du roi, Kantorowicz, la supposée absence d'une figure monarchique depuis la Révolution française qui manquerait aux Français, je pense que c'est une erreur de diagnostic. Et que les Français veulent un leader, ça c'est très clair, mais absolument pas un monarque. Et puis, il y a un autre point qui est la dimension plus technocratique. Le rapport au réel, encore une fois, qui serait dominé par une grille de lecture extrêmement technocratique, une compréhension du réel qui se fait sur ce mode-là, très intellectualisé. Et là, on retrouve aussi une dimension qui existait chez Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, il y a différents sondages qui ont été publiés depuis la crise des Gilets jaunes. La plupart témoignent d'un renforcement du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous observez, vous, à Ipsos, Brice Teinturier? Quelles sont les conséquences politiques de cette défiance?
Dans un premier temps, ce que l'on peut noter, c'est que ce mouvement ne profite à personne. Dans les baromètres de popularité, il n'y a pas de montée spectaculaire, par exemple, de la popularité de Marine Le Pen, ni même de Jean-Luc Mélenchon. C'est un mouvement qui est assez dévastateur sur l'ensemble du système politique. Et d'une certaine façon aussi, les Gilets jaunes ringardisent le Front National, parce qu'ils expriment un désir de ne pas avoir une représentation politique, ce qui renvoie Marine Le Pen et même Jean-Luc Mélenchon à une forme traditionnelle de la politique, avec des représentants. Mais malgré tout, une fois qu'on a dit ça, c'est bien la thématique du Front National, et c'est le Front National, je crois, qui sort le plus renforcé de cette crise.
Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'immigration, sauf erreur de ma part, est complètement absente du discours des Gilets jaunes. J'ai là, par exemple, quatre revendications d'un triumvirat de Gilets jaunes. Rien sur l'immigration.
Oui, ce n'est pas l'immigration qui apparaît comme étant la dominante, c'est vraiment une question sociale avant tout et pas une question identitaire, même si on a vu dans certaines manifestations des Gilets jaunes des propos xénophobes ou racistes. Mais cette dimension extrêmement sociale, cette France des petits contre les gros d'une certaine façon, c'est bien le Front National qui l'incarne, beaucoup plus encore que la France insoumise. Et la sociologie des soutiens au mouvement des Gilets jaunes ou de ceux, et nous l'avons testé, qui seraient prêts à voter aux européennes pour une liste des Gilets jaunes, elle est beaucoup plus proche encore de la sociologie de l'électorat du Front National que de la France insoumise, c'est-à-dire populaire, peu diplômé, et extrêmement en réaction contre l'Europe. Et c'est cela qui fait qu'il y a un écho très profond, plutôt du côté des sympathisants du Front National. Les deux extrêmes soutiennent les Gilets jaunes. On a un soutien qui est très fort au FN et chez Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous testez l'hypothèse d'une liste de Gilets jaunes, on avait pour les européennes, on obtenait nous 12%, et que vous regardez chez qui ils prennent, eh bien ils prennent prioritairement au FN, à la France Insoumise, et également chez Nicolas Dupont-Aignan.
Mais alors, il y a d'autres personnalités politiques qui se sont engagées. Par exemple, François Ruffin, est-ce que lui pourrait plus avoir l'oreille des Gilets jaunes ?
Non, je ne crois pas, parce que la dynamique profonde du mouvement, c'est une dynamique, encore une fois, avant tout sociale, sans demande insurrectionnelle. Et c'est là où il y a aussi une différence entre la façon dont Marine Le Pen capte ou tente de capter le mouvement et dont Jean-Luc Mélenchon ou François Ruffin le font, c'est qu'il n'y a pas d'aspiration révolutionnaire majoritaire dans ce pays.
Ils veulent pas changer le système.
Ils protestent contre le système, mais l'idée d'une constituante, d'une révolution, d'un retour aux urnes pour changer fondamentalement le système politique et la façon dont il fonctionne, c'est quelque chose qu'on voit bien à travers le rejet de la politique, mais ce n'est pas une construction politique et intellectuelle au sens où un Ruffin ou un Mélenchon essaye de le mettre sur la place publique. C'est d'abord et avant tout une demande profonde de justice sociale, fiscale, un rejet du haut, mais qui ne débouche pas sur un projet politique qui passerait par une assemblée constituante.
Par exemple, une sixième république, est-ce que ça serait de nature à satisfaire ces gilets jaunes? Alors, il y a par exemple trois gilets jaunes parmi les messagers ou les représentants qui proposent un nouveau type de référendum d'initiative populaire. Bref, une modification constitutionnelle, puisqu'ils veulent aussi que le peuple puisse directement amender certains articles de la Constitution. Est-ce que ça, c'est une demande qui est une demande isolée, ou est-ce que vous pensez que c'est véritablement majoritaire parmi les gilets jaunes?
Et ça fait partie des demandes qu'on retrouve chez les gilets jaunes, c'est une partie importante des gilets jaunes, parce que ces gilets jaunes drainent ces courants également, à la fois de sympathisants de la France insoumise et de sympathisants du Front National. Donc la demande d'une autre forme de rapport au pouvoir, associant beaucoup plus le peuple, les gens d'en bas, avec des référendums, avec un contrôle permanent par la société des politiques, cela existe, et c'est bien ce qu'incarne ce mouvement. Mais de là à en faire le mot d'ordre premier, comme le font beaucoup plus la France Insoumise que le Front National, que le Rassemblement National, là je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la dominante du mouvement des Gilets jaunes, parce que avant d'exprimer une composante strictement politique de changement du régime, ils expriment une composante sociale. Il y a trois crises dans ce mouvement. Il y a une crise sociale, il y a une crise démocratique et il y a une crise politique. Mais je crois que c'est dans cet ordre-là qu'elle s'exprime. C'est d'abord la composante sociale et ensuite la composante démocratique et politique.
Ça n'est pas la première contestation sociale que la France connaît, Brice Teinturier. Néanmoins, celle-ci est très populaire. Si on compare par exemple les revendications des cheminots à la SNCF, ils étaient moins populaires que les gilets jaunes. Comment l'expliquez-vous ?
C'est effectivement une des caractéristiques de ce mouvement et qui continue, c'est-à-dire même aujourd'hui et alors même que progressivement vous avez de plus en plus de Français qui considèrent qu'il faut que le mouvement s'arrête, l'image ou le soutien à ce mouvement reste à un niveau élevé. Il a baissé, mais il reste à un niveau élevé. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un système d'identification, je crois, aux gilets jaunes et à leurs revendications extrêmement éparses. En 95, on avait une identification par procuration, ce que Stéphane Rosès avait appelé la solidarité au mouvement par procuration, l'idée étant que, et c'est ce que disaient les manifestants, les Français pouvaient non pas adhérer aux revendications des manifestants, mais se dire que demain, c'était sur d'autres revendications que eux-mêmes seraient concernés. Là, c'est pas ce mécanisme, c'est beaucoup plus direct. C'est fondamentalement une part extrêmement importante de Français qui se dit « je vis la même chose, je ressens la même chose » sur la question de la justice sociale, sur la question de la fiscalité, sur la question du rapport au pouvoir. Et donc, cela explique qu'il y ait ce mécanisme d'identification très fort, ajouté au fait que les revendications sont très hétérogènes et que beaucoup de catégories peuvent s'y retrouver. Ceux qui sont dans le Macron démission, eh bien, vont adhérer à cela. Ceux qui sont dans les mesures purement fiscales vont aussi trouver un écho favorable dans le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est cette somme qui produit, cette identification qui produit ce soutien aussi important.
Mais alors, du coup, si on s'en tient aux chiffres bruts, les Gilets jaunes sont 100 000, 150 000, bref. C'est compliqué de les dénombrer, mais on voit bien en tout cas que cela reste un mouvement qui, comme tout type de protestation sociale, est un mouvement circonscrit et parfois moins important que d'autres protestations sociales. Néanmoins, comme il a cet aspect-là, vous pensez que c'est cela qui oblige en quelque sorte le gouvernement à entendre les revendications de ces gens-là, plus qu'ils ont entendu par exemple les cheminots et d'autres catégories de protestataires ?
Oui, tout à fait, parce que si vous regardez effectivement le nombre de manifestants, ce n'est absolument pas colossal, c'est même pas très important, 300 000, puis moins que cela. Dans l'échelle des mobilisations effectives, c'est relativement bas. La différence, en revanche, c'est l'intensité, la permanence du soutien de l'ensemble des Français à ce mouvement. Et je crois que c'est ça que le gouvernement a très vite compris, qu'il ne s'agissait pas d'une revendication purement catégorielle, mais qu'il y avait derrière cette pointe émergée de l'iceberg, des pans entiers de la société qui s'identifient à ce mouvement. Et là, ça change quand même beaucoup de choses. A fortiori, quand vous avez un mouvement qui devient violent, avec des scènes de violence dont on aurait pu penser qu'elles allaient très rapidement et très fortement faire baisser le soutien, eh bien, a fortiori, quand vous constatez que non, cela fait baisser un peu le soutien, notamment parce qu'il y a ces scènes de violence et une inquiétude sur les conséquences économiques du mouvement, mais pas tant que cela.
Alors aujourd'hui, Richard Ferrand de La République En Marche estime qu'il faut que le mouvement s'arrête. Comment vous voyez l'avenir de ce mouvement ?
Je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que le mouvement va progressivement refluer, tout comme une partie du soutien de l'opinion, et c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Français ne sont absolument pas à 82-83% de soutien, comme on l'a dit à une époque, en mélangeant des questions où il y avait de la sympathie, de l'approbation. Ils sont plutôt aux alentours de 68-70%, et cela a même reflué en termes de soutien. Donc normalement, avec les annonces gouvernementales qui sont importantes, avec aussi les fêtes de Noël, tout cela va favoriser une décrue du mouvement. Mais une décrue, ce n'est pas une disparition, parce que les moteurs profonds de ce mouvement, eux, ne sont pas éteints et ne sont pas totalement traités. Donc il pourrait y avoir à nouveau une résurgence, une reflambée, je ne sais pas quand, peut-être en janvier, en février. En tous les cas, ce serait un contresens de se dire, si le mouvement s'éteint progressivement d'ici Noël, qu'il a disparu et qu'on est dans autre chose. D'où l'absolue nécessité pour les forces politiques et pour le pouvoir de continuer à répondre à ce nombre de revendications, à la fois sur l'aspect crise démocratique, ça c'est l'objet du débat, mais il faut qu'il y ait du contenu derrière cela, mais également aussi sur cette question du rapport à la justice qui est, je le redis, le moteur profond de ce mouvement et qui n'a pas, je crois, été suffisamment traité.
La situation pour le gouvernement est-elle, entre guillemets, rattrapable, Brice Teinturier ? Est-ce qu'il est possible, lorsqu'on a atteint des niveaux de popularité aussi faibles que ceux d'Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que l'on peut envisager une évolution, une embellie ?
Je crois que ce n'est pas totalement exclu. L'image d'Emmanuel Macron est profondément abîmée et on a vu dans ce mouvement à quel point il y avait une cristallisation et un rejet très puissant du président de la République. Cela étant, c'est quand même de mémoire la première fois qu'un président de la République fait aussi un tel mea culpa à la télévision. Et puis met sur la table un certain nombre de mesures qui sont pas totalement inconséquentes quand on voit leur ne serait-ce que leur poids financier. Alors Emmanuel Macron est très abîmé, ses marges de manœuvre sont beaucoup plus restreintes. De là à dire que le quinquennat serait terminé, on est objectivement un peu embêté parce que il y a un moment dans le quinquennat de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy où on voyait que les fils étaient définitivement cassés, et quand c'était cassé, c'était cassé.
Là, c'était quand ?
Ah, je crois que pour Nicolas Sarkozy, ça s'est joué en réalité extrêmement rapidement, dès le début de l'année 2008 et avant la crise économique de 2008, où les milieux populaires ont très vite rompu alors que c'était une des promesses de la campagne. Je serai justement le candidat qui produira des résultats et qui a compris comment les milieux populaires fonctionnaient. Donc là, ça s'est cassé très rapidement et puis aussi dans l'exercice de la fonction présidentielle.
Et pour François Hollande ?
Pour François Hollande, ça a été à la fois plus rapide, c'est dès l'été avec le bouton fiscal, qu'il y a une rupture très puissante qui se fait. Et puis ensuite, je crois que à partir de 2014-2015, malgré les attentats et une hausse de la popularité, les Français se disent non, ce n'est pas en termes d'incarnation et ce n'est pas aussi en termes de politique ce que je souhaitais. Et là, on voit que c'est relativement terminé. Pour Emmanuel Macron, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à cela. Les niveaux de popularité sont faibles. On est à 20% aujourd'hui de jugement favorable. C'est extrêmement faible par rapport à ses prédécesseurs. Même si le record, ça avait été 13% pour François Hollande en 2014. Mais c'est pas ça qui me fait dire que les choses sont plus complexes, sont plus compliquées. C'est d'abord l'état des oppositions qui sont extrêmement fragmentées, où il n'y a pas d'alternative crédible aujourd'hui qui se dessine clairement. Et puis c'est la capacité...
Pourquoi pas d'alternative crédible ? Puisque on voit, alors, France Culture, d'ordinaire, on ne fait pas de commentaires de sondage, mais on voit que le Rassemblement National, par exemple, est... effectivement, pour vous, c'est une mauvaise nouvelle, Maurice Tatiari. Mais on voit que le Rassemblement National est de 6 points au-delà de La République En Marche dans un sondage ce matin publié par l'Opinion. Bref, il y a aujourd'hui la possibilité de voir que certains partis tirent leur épingle du jeu. Est-ce que là, par exemple, il n'y a pas un fil à suivre ?
Oui, il y a une dynamique qui peut être profitable au Front National. Nous n'avions pas les mêmes niveaux, hein, mais peu importe, dans la dernière intention de vote que nous avons réalisée, où moi j'avais La République En Marche dans la zone des 21%. Donc malgré tout, avec un socle électoral qui...
Ça veut dire que son socle est solide.
Ça veut dire qu'il y a un socle aux alentours de 20%.
Emmanuel Macron a fait 24% au premier tour de la présidentielle. Bon.
Ce qui est un socle relativement faible par rapport au 28,6 de François Hollande ou au 32 de Nicolas Sarkozy. Et quand on mesure sur les élections européennes quelque chose aux alentours de 20%, c'est encore en dessous, c'est encore en deçà. Mais malgré tout, dans un univers extrêmement fragmenté, il reste le pôle d'un certain nombre d'électeurs qui, en termes de sociologie et de projet politique, ne se retrouvent que dans ce projet. Donc il y a quelque chose qui tient encore. La question, c'est de savoir où en sera le Front National, s'il va retrouver les niveaux qu'il avait eus lors des régionales de 2015 ou des européennes de 2014, et qui étaient plutôt de l'ordre de 25%. Si c'est le cas, et cela peut être tout à fait le cas, il sera à nouveau dans la dynamique, en tête, etc. Cela ne veut pas dire pour autant que dans une perspective présidentielle, il constituerait une alternative crédible. Et là, il faut bien différencier ces deux éléments. On l'a vu en 2017, ça ne veut pas dire que la prochaine présidentielle sera du même ordre, mais vous pouvez être à un niveau très élevé aux élections intermédiaires, cela ne veut pas dire pour autant qu'on vous confie les clés de la maison France pour un exercice présidentiel et avec une majorité parlementaire derrière.
Plus généralement, puisque vous avez écrit « Plus rien à faire, plus rien à foutre » sur la crise de la démocratie et qu'il est question de défiance de la démocratie ou en tout cas des institutions démocratiques, est-ce uniquement la question de la personnalité, de la politique d'Emmanuel Macron ? On a l'impression en réalité que la démocratie un peu partout dans le monde n'est plus un système qui aujourd'hui satisfait les peuples ou une majorité des populations. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Teinturier ?
Je crois qu'incontestablement, il y a une déconsolidation démocratique et une relativisation du caractère absolu, sacré, au-dessus de toutes les autres formes de régime, de la démocratie représentative telle qu'on l'a connue ou construite. Et cela fait longtemps que moi j'essaye d'alerter là-dessus, quand j'ai vu monter régulièrement, de 24% en 2013 à 36% aujourd'hui, le nombre de Français disant qu'il y avait des régimes tout aussi bons que la démocratie. C'est encore plus important.
Beaucoup de Français pensent qu'il y a des régimes qui sont aussi bons, comme vous dites, que la démocratie ?
36% dans les enquêtes, les dernières enquêtes que nous avons réalisées.
Et chez les jeunes ?
Et chez les jeunes, c'est encore plus élevé. Donc la relation à la démocratie telle qu'on l'a connue au cours des 40 dernières années, a profondément changé. Et le pays, une partie du du pays cherche d'autres formes. En tous les cas, est insatisfait de ce mécanisme-là.
Mais est-ce qu'ils veulent plus de démocratie? C'est-à-dire, par exemple, une démocratie directe. Alors ça, c'est ce que réclament trois gilets jaunes. Est-ce qu'ils veulent, au contraire, une absence de démocratie? Je ne sais pas, moi, un Erdogan à la française?
Alors, on a travaillé sur les scénarios alternatifs. On a fait effectivement des enquêtes pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils recherchaient. Ce n'est pas la tentation autoritaire qui est la première. Elle existe hein, dans ce pays. Mais ce n'est pas le modèle dominant de substitution à la démocratie qui séduit le plus. Il y a une demande participationniste qui est fondamentale. Le désir de pouvoir encadrer le politique en permanence et pas simplement au moment des élections d'exprimer son souhait de reconduction ou de sanction. Ça, c'est un levier extrêmement puissant. Mais on voit bien avec les gilets jaunes aussi les contradictions inhérentes à ces formes de participation directe. Qu'est-ce que vous faites de la représentation? Comment vous construisez un cadre qui permet de négocier les conflits qui, eux, sont légitimes et non pas de basculer dans la violence qui, elle, détruit mais pose un problème ensuite de reconstruction? C'est cela qui n'est pas clair, y compris chez une partie de ceux qui refusent de plus en plus la représentation représentative telle qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant.
Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les politiques, puisque vous en discutez avec eux? Alors, je ne sais pas s'ils ont une réponse homogène à ce type de perception, mais enfin, ils sentent bien que la crise est malgré tout à un niveau assez élevé. Comment réagissent-ils, Brice Teinturier?
Mais je crois que contrairement à une idée reçue, les politiques ne sont pas du tout déconnectés. Ils sont impuissants, ce qui est autre chose. Mais ce mouvement-là, ils le voient depuis longtemps, ils le sentent, ils sont en relation en réalité avec les Français sur le terrain, comme on dit. Donc ils ont bien perçu ces mécanismes. La grande difficulté, c'est qu'une fois qu'on a le diagnostic, c'est de trouver des solutions. Et là, comment articuler des nouvelles formes de démocratie, de participation aux formes traditionnelles, c'est tout l'enjeu et ils ne sont pas plus armés que la plupart des analystes pour esquisser les éventuelles solutions.
Brice Teinturier, vous avez notamment publié « Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie », c'est chez Robert Laffont.